Bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct et d'interaction avec vous et surtout notre invité. Une invitée, une journaliste surtout, animatrice et également spécialiste et grande amoureuse du cinéma du 7e art. Vous avez l'habitude de la voir sur le tapis rouge des Césars, mais aussi au Festival de Cannes et également sur le magazine Chicha, c'est rien, sur Canal+, je le rappelle. Depuis la rentrée, elle fait aussi partie des nouveaux visages d'Europe 1. On va en parler avec elle. Mais si elle vient nous voir aujourd'hui, c'est pour nous parler d'une opération qui lui tient à cœur et une cause qui lui sont chères. Laurie Chalewa, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le Buzz Télé.
Merci.
Leur voix pour l'espoir, hein, je rappelle, oui. C'est le titre du concert caritatif que vous organisez. C'est dans une semaine même, hein, lundi prochain.
Exactement.
Le 11 octobre à l'Olympia. L'argent récolté de cette soirée ira dans les caisses de la Fondation Arcane, hein, qui lutte contre le cancer du pancréas. 10e édition que vous organisez avec une belle affiche, on imagine. Est-ce qu'on sait déjà un peu quels sont les grands invités qui vous rejoindront lundi prochain?
Alors oui, alors il y en a d'autres qui vont arriver, mais il y a Amir, il y a Zaz, il y a Julie Zenati, il y a Claudio Capeo, il y a Benabar, je vais en oublier évidemment, il y a Oshi, il y a Gauvin Serre, il y a Gaëtan Roussel aussi, et puis pas mal d'autres qui seront là. Et c'est vrai que chaque année, on a de la chance d'être quand même pas mal suivis par les artistes, et puis on essaye de faire que ce soit une soirée très riche, qu'il y ait des artistes de plusieurs univers différents. Il y a Naps aussi, celui qui chante La Kiffance, on a tous dansé sur La Kiffance tout l'été, donc il sera là. Donc voilà, on fait le grand écart en termes d'artistes, mais c'est très sympa.
Alors comment vous arrivez à les convaincre, parce qu'ils ont tous des emplois, on va dire, du temps plutôt de ministre?
Bah c'est notre problème numéro un, hein. Ça reste les emplois du temps des artistes, parce qu'après l'envie d'aider, de mettre le pied à l'étrier pour de telles causes, généralement ils sont plutôt réceptifs, et puis il y en a plein qu'on connaît très bien, comme Patrick Bruel ou autres, dès qu'ils sont là, ils viennent. Mais après, il y a la réalité d'un emploi du temps, surtout là, après cette crise sanitaire, et tous les reports, ils sont tous sur les routes, ils cumulent les dates encore plus qu'avant, donc c'est vrai que c'est compliqué de les attirer. Et encore, on est un lundi soir, mais même un lundi soir, finalement, ils sont tous par Mons et par Vaux. Mais on arrive quand même à les avoir.
Et au total, il y aura combien d'artistes au final?
Au total, je pense qu'il y aura une dizaine, 10-15 artistes. Après, il y a aussi la réalité de la durée de la soirée. Sinon, les gens, on les libère à 3h du matin. Ce n'est pas l'envie qui manque de faire un spectacle très, très long, mais on essaye quand même de rester dans une durée à peu près correct.
Acceptable. Ouais. Nous sommes en direct sur Figaro Live, je rappelle, avec Laurie Chalewa, hein, qui nous a rejoint sur ce plateau. Ben, vous pouvez envoyer vos commentaires ou vos questions. Que pensez-vous de son engagement avec cette opération concernant le cancer du pancréas? Est-ce que vous êtes fidèle également à ces émissions sur Canal+? Dites-nous tout, et en attendant, on retrouve tout de suite Sarah Lecoeuf pour les news médias du jour. Bonjour Sarah.
Bonjour Philippe, bonjour Laurie.
Bonjour.
Alors Laurie, on démarre traditionnellement cette rubrique des news médias avec les audiences télé de la veille.
D'hier soir, et hier soir, c'est TF1 qui est arrivé en tête grâce à un classique du cinéma français, Bienvenue chez les Ch'tis. Le film de Danny Boone avec Kad Merad a fédéré 6 140 000 téléspectateurs et 29,6% de part d'audience. La Une est loin devant France 2, qui proposait de son côté Spectre. Le James Bond avec Daniel Craig et Léa Seydoux a convaincu 3 600 000 cinéphiles et 31,3% de part de marché. Quant à France 3, avec les enquêtes du mur de la chaîne est sur la troisième marche du podium avec un peu plus de 2 millions de fidèles et 9,7% du public. Et enfin, c'est un score un peu faible pour M6 et son numéro de zone interdite à 1 700 000 téléspectateurs et 8% du public.
Laurie, hein, j'ai dit que vous êtes une spécialiste et grande amoureuse du cinéma. Vous êtes plutôt Bienvenue chez les Ch'tis ou James Bond?
Franchement, les deux. Les
deux. Non, c'est pas une réponse.
Ah non, mais c'est complètement différent. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les deux. Danny Boone, les comédies françaises. Bien sûr, je suis très cliente et je suis très contente quand on fait de tels scores Bienvenue chez les Ch'tis.
La énième rediffusion, en plus.
Énième rediffusion, c'est super. Et puis, évidemment, j'adore James Bond. En plus, là, il faut quand même le voir, Spectre, parce qu'il y a un lien entre Spectre et le nouveau James Bond qui sort mercredi, qui est le dernier James Bond avec Daniel Craig. Je suis méga fan de l'ère Daniel Craig, donc voilà, je ne peux pas choisir entre les deux.
C'est dit.
Impossible.
On poursuit la télévision également avec les hommages à Bernard Tapie qui se sont multipliés depuis son décès.
Oui, hier et ce matin, Emmanuel Macron signe un texte dans La Provence, le journal qui appartenait à l'homme d'affaires. Pour tous les Marseillais, pour moi, Bernard Tapie restera à jamais celui qui, à force d'énergie, d'engagement et de talent, emmena l'OM sur le toit de l'Europe. Voici les mots du président de la République dans les colonnes aux lecteurs. Il faut rappeler que Bernard Tapie sera inhumé vendredi prochain après une cérémonie d'hommage au Vélodrome à Marseille, et donc il sera inhumé dans sa ville de cœur, Marseille.
la ville de cœur, Marseille. La fin de sa vie, hein, Bernard Tapie, il a médiatisé son cancer. Hein. Alors, pas du pancréas, mais estomac, œsophage et poumon. Ouais. Est-ce que c'est un modèle, finalement? Et sa façon de communiquer, vous la trouvez c'était une bonne idée de communiquer pour justement inciter les gens, notamment à se dépister?
Alors, bon, c'est compliqué de juger ce qu'il faut faire quand on est atteint d'une maladie, mais je salue le courage, la dignité de Bernard Tapie. Évidemment, c'est toujours bien d'en parler pour les autres, pour ceux qui restent, pour les prochains, pour faire avancer la cause. Il n'y a pas de tabou, en fait. Ça peut arriver à n'importe qui. La maladie, ça frappe n'importe quand. Et c'est vrai que je trouve que ce qu'il a fait, et surtout avec tellement de dignité, de force, il s'est battu. C'était, je pense, le plus gros combat de sa vie, le dernier. Et on est tous très attristés par son départ. C'est vraiment, je trouve, une personnalité qui va manquer. Et oui, vraiment, moi, je salue son courage et je pense beaucoup à sa famille. Et
de sensibiliser, finalement, les gens, en effet, à cette maladie qui, malheureusement, on n'arrive pas à vaincre tout le temps aujourd'hui.
On n'arrive pas à la vaincre tout le temps. Il y a des cancers plus mauvais que d'autres. Et c'est justement sur ces cancers-là qu'il faut aussi mettre l'accent. Effectivement, Bernard Tapie, il avait des mauvais cancers qui ont métastasé un peu partout. Et c'est vrai qu'il faut... Non, mais il faut en parler. Il faut absolument que ce ne soit plus un tabou. Moi, ça me rend hystérique quand je lis partie d'une longue maladie. Il n'y a pas de honte, en fait. On est tous touchés, tous, de près ou de loin. On a tous entendu le mot cancer à un moment donné de notre vie. Il faut lutter et ça y est, il faut y aller. Aujourd'hui, il y a des progrès, il y a des cancers qu'on soignait très mal il y a 10 ans, le cancer des poumons, le cancer du sein. Aujourd'hui, on fait des avancées sur le dépistage, sur les traitements. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour les autres cancers, surtout du tube digestif. Enfin, voilà, les cancers digestifs aujourd'hui sont très mauvais, le cancer du cerveau, enfin, on les connaît, les mauvais cancers.
La maladie du siècle. On termine peut-être sur une note un peu plus légère. Cyril Hanouna a refusé de se faire vacciner pour une raison très particulière.
Oui, l'animateur répondait aux questions des lecteurs du Parisien ce week-end et l'une portait sur la vaccination. Eh bien, l'animateur s'y refuse par peur des piqûres. « Je me pose surtout la question pour mes enfants », ajoute-t-il. « Imaginons qu'il y ait des effets négatifs, je ne me le pardonnerai jamais. » Et pourtant, il est fils de médecin et apparemment son père l'engueule beaucoup, selon ses termes. Alors, il faut rassurer nos téléspectateurs, le présentateur de TPMP se fait tester, assure-t-il, tous les deux jours.
Il a tort ou il a raison, Cyril, de dire publiquement que finalement il ne se fait pas vacciner, est-ce qu'il a peur des ennemis? On ne sait pas également les éventuelles conséquences du vaccin.
Il le fait avec humour, donc ouais. Voilà, c'est ce qui le caractérise. C'est déjà... Non, surtout, je me dis, mais quel courage de faire le test PCR tous les deux jours.
Ah oui. Oui, parce que...
C'est un vrai fardeau,
quand
même.
C'est ça, le vrai problème.
Pour un animateur télé.
Moi, je préfère me faire la piqûre.
Donc, vous êtes vacciné.
Je suis vacciné.
On poursuit. Ben, merci beaucoup, Sarah, pour ces news médias. On enchaîne tout de suite, surtout avec l'interview du boss télé, Élorie. Voix pour l'espoir, donc c'est le concert lundi prochain à l'Olympia pour évidemment récolter des fonds destinés à la recherche contre le cancer du pancréas. Qu'est-ce que représente ce 10e anniversaire pour vous? Vous dites que c'est passé finalement très vite, malheureusement.
Oui, malheureusement, c'est passé très vite. Malheureusement, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Donc, quand on fait le bilan des 10 ans, alors c'est la 10e année, c'est la 9e édition, puisque l'année dernière, on n'a pas pu.
Il y a eu une année blanche,
faire, voilà, une année blanche Covid. Mais c'est vrai que d'un côté, je suis très fière de me dire qu'on a réussi à faire un événement qui s'est inscrit dans la longévité, qui est encore là aujourd'hui. Ça fait 10 ans. La Fondation Arcade est vraiment identifiée comme la fondation de référence pour le cancer du pancréas. Je reçois malheureusement des coups de fil quasiment toutes les semaines pour aider. Donc j'allais dire heureusement, parce qu'au moins les gens savent à qui s'adresser, parce que ce qui est très difficile quand on est touché par la maladie, c'est de ne pas savoir, d'être démuni. On n'a pas tous un médecin dans son entourage ou un ami qui peut nous aider. Et là, voilà. Donc c'est vrai qu'on fait des progrès à ce niveau-là, sur la communication, sur toutes ces choses-là, sur la prévention, sur l'information. Maintenant, sur la recherche, concrètement, et la levée de fonds, il y a beaucoup, beaucoup à faire.
Et est-ce que c'est d'une certaine manière aussi une façon de rendre hommage à votre père, hein, qu'on le rappelle, qui est décédé de cette maladie?
C'est vrai que mon père est décédé en 3 mois, à 54 ans. Ça a été très brutal et très traumatisant. Et oui, en tout cas, moi, j'avais besoin de trouver un sens à ce départ. Je me suis dit, s'il est parti, il faut au moins que ça serve et qu'on arrive à sauver des vies. Sinon, c'est terrible et c'est assez... c'est anxiogène, en fait. Donc oui, bien sûr, moi, chaque année, c'est mon hommage. Mais maintenant, j'essaye de parler un petit peu moins de moi et surtout de penser aux personnes en ce moment qui luttent et essayer de faire que cette cause soit voilà, la cause de tout le monde. Mais bien sûr qu'au fond de mon cœur, à chaque fois que la musique démarre à l'Olympia, ben voilà, moi je lève la tête, je pense à lui, je lui dis bah, merci papa de faire ça, c'est toi en fait qui fais ça pour les gens et bravo.
Sarah, première réaction ou question des internautes qui nous suivent.
Parce que nous sommes en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur le Figaro.fr et j'ai une première question de Fanny qui se demande comment vous vous impliquez toute l'année pour ce cancer du pancréas, donc excepté ce concert.
Pas assez déjà, à mon goût, j'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour m'impliquer, mais je fais beaucoup de relais en fait entre les familles qui sont touchées par un cancer du pancréas et la Fondation Arcade avec la directrice Lama qui est une femme extraordinaire. J'essaye d'être à l'écoute, j'essaye d'informer, de répondre aux questions du mieux possible et puis toujours aussi d'anticiper le prochain concert et d'essayer en fait de faire que l'événement vive tout au long de l'année. Mais c'est sûr que j'aimerais avoir une équipe avec moi et pouvoir faire beaucoup plus de choses. On y arrivera à un moment donné, mais bon, déjà, surtout, l'information, c'est quand même mon combat numéro un.
D'en parler
beaucoup.
Qui dit 10 ans, dit format spécial de cette soirée, de ce concert, ou alors, est dans la continuité encore?
On est dans la continuité parce qu'en fait, je pense que la formule qui marche le mieux pour les personnes dans la salle, en fait, on a un public qui est composé, on va dire, à 50-50 de personnes qui ont envie de voir ce concert pour le côté festif et de personnes touchées par la cause, le personnel hospitalier, les infirmières, des malades, des personnes qui s'en sont sorties. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que ce soit vraiment un moment de fête. On se dit qu'on parle de la maladie avant, après, un tout petit peu pendant, bien sûr, parce qu'on est là pour une cause. Mais l'idée, c'est que les chansons puissent vraiment s'enchaîner et que ce soit très festif et qu'on ait justement, que ce soit un moment de plaisir où on se vide la tête, où on laisse un petit peu les problèmes de côté. Donc, on n'a pas vraiment changé la formule. Il y aura des intervenants sur scène, des petites surprises, mais beaucoup, beaucoup de musique et de fêtes.
Est-ce que les fonds récoltés donc à cette occasion ont permis de faire avancer depuis 10 ans la recherche ou c'est encore un cancer très compliqué à traiter et à diagnostiquer, pardon?
C'est encore un cancer très compliqué à traiter et à diagnostiquer. Alors, chaque année, on reverse les bénéfices de la soirée, bien sûr, et aussi l'appel aux dons qu'on fait à l'Entracte. Tout ce qui est fait aide. Après, c'est sûr que la recherche, ça coûte très cher, que dès qu'on reprend un travail de recherche, c'est sur plusieurs années, il faut payer l'humain, c'est l'humain en fait qui coûte cher.
On a une idée justement, pardon de vous couper, on a une idée des montants nécessaires aujourd'hui pour traiter, ne serait-ce que ce cancer-là, celui du pancréas.
Franchement, je ne saurais pas vous dire, mais c'est vraiment énorme parce qu'il faut payer, en fait, il faut payer des salariés pendant plusieurs années, ça prend des années, donc c'est ça qui coûte très très cher. Donc on progresse, mais on progresse à petits pas, et c'est bien que des médias comme vous, je crois que le buzz me suit depuis la première édition, soit présent chaque année, parce que voilà, il faut lutter sans relâche. Mais c'est vrai que les progrès, pour le moment, restent encore assez minimes. On n'a pas vraiment identifié de cause à ce cancer, on n'a pas énormément de traitements. Donc voilà, on avance quand même. Il y a beaucoup de débuts de pistes et maintenant, il faut creuser. C'est maintenant qu'il faut donner de l'argent pour pouvoir les creuser et assez longtemps pour arriver à un résultat probant.
Vous parlez d'argent, les montants récoltés sont de plus en plus importants chaque année ou c'est compliqué encore?
Alors, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de causes. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de causes légitimes, en plus. Donc voilà, tout ce qu'on arrive à récupérer, ça sert pour la recherche. Oui, non, c'est pas encore assez, bien sûr. Ce serait mentir que dire qu'on est complètement satisfait. D'ailleurs, le jour où on sera complètement satisfait, on arrêtera de faire ce concert ou on le fera que pour le plaisir, pour célébrer la recherche. Mais non, il faut encore donner.
Il faut donner.
N'importe quel montant. Hein, c'est chacun avec sa bourse et ses possibilités. Si tout le monde donnait 1 euro, de toute façon, si toute la population française donnait 1 euro, ça ferait quand même quelque chose de conséquent. Donc voilà, tout le monde doit donner. Vous pouvez donner sur le site de la Fondation Arcade, n'importe quand. Voilà, ça nous aidera.
Ouais. Et puis peut-être aussi en se rendant au concert de lundi prochain. Et j'ai plein de questions pragmatiques. Est-ce qu'il reste des places? Oui. Où est-ce qu'on peut les acheter? Voilà. Si on
combien
peut répondre,
ouais.
Combien ça coûte?
Alors,
on veut tout savoir.
Il reste des places et il y a tous les prix. Donc de 10 euros à peu près à 50 euros en carré or. Vous pouvez les trouver sur toutes les plateformes habituelles, sur le site de l'Olympia, Ticketnet, Fnac, enfin voilà, partout. Et oui, il reste des places, donc franchement, venez. C'est vraiment une belle soirée. C'est vraiment, on essaye de se donner du mal, de monter des belles rencontres musicales aussi, des duos, des trios, enfin, que ce soit quelque chose de très festif au-delà de la cause, que les gens passent un bon moment.
Et est-ce qu'il y aura, comme on dit, une captation ou une rediffusion sur une chaîne? Bon, il y avait eu C8 qui a été, à un moment donné, votre relais.
Exactement. Au début, c'était C-Star. Ensuite, c'est passé sur C8. Et a priori, alors, je ne veux pas m'avancer, mais logiquement, ça devrait encore être diffusé sur C8. On a RFM qui est partenaire aussi depuis quasiment la première édition. Donc oui, il y a un bon relais médiatique. Et vous pourrez assister à la soirée, vous pourrez voir la soirée, effectivement. Mais plus tard, donc autant la voir en live maintenant, franchement. On va pas attendre la diff télé.
Qui était arrivée d'habitude, c'était quoi, plutôt en janvier, c'est ça? C'est arrivé
vers
plus
les fêtes de Noël, oui.
Ouais, pour les fêtes de Noël. Sarah.
Alors moi, j'ai des questions sur la spécialiste du cinéma du 7e art. Quels sont vos derniers coups de cœur ciné? Demande Fanny encore.
Alors c'est très facile. Enfin c'est très facile. J'en ai eu pas mal. Je trouve qu'on a été très gâtés là pour cette rentrée. Évidemment, Bac Nord, qui d'ailleurs cartonne et continue de cartonner, c'est un très 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 bon film. J'ai beaucoup aimé Boîte Noire avec Pierre Niney, qui est aussi un très bon thriller. J'ai bien aimé le nouveau James Bond qui sort mercredi.
Vous l'avez vu, on est très jaloux.
J'ai vu, je l'ai vu, j'ai eu cette chance. 2h45 quand même. Ouais. Il faut, voilà,
il faut
s'aménager.
Hein. Oui. C'est mitigé, la critique.
C'est mitigé. Moi, je trouve que c'est vraiment un bel épisode. Bon, de toute façon, c'est du pur James Bond, hein, avec beaucoup d'action, des sentiments. C'est un James Bond plus humain, mais bon, moi, j'ai bien aimé. Et surtout, il y a un très joli film aussi, c'est le film de Samuel Benchetrit, Cette musique ne joue pour personne. Si vous êtes plus cinéma d'auteur, avec une très belle distribution, de beaux dialogues. Donc voilà, vous avez de quoi faire.
On a de quoi faire. D'où vous vient cette passion pour le cinéma?
Alors, en fait, c'est mon frère qui était le très cinéphile. Petit, il passait sa vie à regarder des films et donc c'est lui qui m'a initiée très tôt aux films d'horreur. Donc d'abord, donc très jeune, j'ai été élevée avec Chucky, la poupée qui tue, Damien la malédiction, Halloween, Alien, enfin voilà, j'avais
Massacre à la tronçonneuse,
L'exorciste, enfin des trucs sympas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vachement de mal à regarder des films d'horreur. Je pense que je les ai vus trop tôt, donc j'ai un peu peur, même si j'aime bien. Et donc c'est lui le vrai cinéphile dans la famille. Et puis après,
il m'a transmis le virus.
Et puis on était très, voilà, on avait le film du dimanche soir en famille. Enfin, on aimait bien regarder des films et des séries, on était assez consommateurs de cinéma.
On reste avec le cinéma, parce que depuis la rentrée, on vous retrouve aussi à la radio. Hein. Cette fois, c'est sur Europe 1, c'est le samedi avec l'émission Clap à 14h. Comment on dans ses chaussures? On est bien là depuis cette rentrée? Ça se passe comment?
Moi, la radio, j'adore. Donc, c'était un rêve d'y revenir. J'avais animé la matinale de Chérie FM, ensuite j'avais fait des choses sur RFM. Donc là, je reviens avec un format à moi, une tranche en plus de cinéma, dans laquelle il y avait tout à faire, parce que l'idée, c'était d'essayer de mettre ma patte et donc pas juste de reprendre ce que faisait Mathieu Charrier et qui faisait très bien, mais d'essayer de faire quelque chose qui me corresponde. Donc on a un petit peu tâtonné là sur les premières émissions. Là, je trouve qu'on a réussi à trouver notre rythme de croisière et je suis ravie, j'arrive à parler de l'actualité, j'ai un grand entretien, j'ai une partie avec des spécialistes. Je dis spécialistes parce que j'aime pas le mot critique, mais voilà, pour débattre un petit peu des sorties salles. Et puis surtout, une heure de temps de parole, c'est vraiment différent de la télé. La radio, c'est très complémentaire parce qu'on a plus de temps, c'est uniquement notre voix, on n'a pas le soutien des images. Donc
il n'y a pas le stress des caméras.
Exactement, exactement. Et puis on a vraiment l'impression de s'adresser, alors à la télé aussi bien sûr, mais je trouve qu'à la radio, il y a vraiment quelque chose entre l'auditeur et nous, et ça passe par la parole, c'est très fort. J'aime beaucoup la radio.
Et l'auditeur qui vous a écouté, donc c'est une heure hein, l'émission, tout.
Oui.
Cette émission Clap, c'est quoi? L'idée, c'est de lui dire, on lui donne les meilleures clés, conseils pour mieux choisir finalement les films qui sont à l'affiche.
Oui, c'est un peu ça. C'est comme si, en fait, on se faisait un déj entre potes et qu'on parlait un petit peu.
Les bons tuyaux.
C'est les bons tuyaux. Donc, dans la première partie, c'est un peu les news de la semaine. On se raconte ce qui s'est passé. Par exemple, la semaine du décès de Jean-Paul Belmondo, on s'est remémoré les temps forts de sa carrière. Ensuite, j'ai un invité, donc on passe un long moment avec lui. Donc, il y a une partie promo, puis il y a une partie les films de sa vie avec un questionnaire où je l'interroge sur sa plus grande émotion au cinéma, le film qu'il revoit sans cesse. Donc, ça permet aussi d'aborder des choses différentes. Et puis après, la partie, voilà, on est samedi, qu'est-ce que vous pouvez voir au cinéma? On vous dit tout, qui a aimé quoi. Donc je trouve que c'est assez complet et l'idée c'est d'avoir un ton très convivial, quoi, d'inviter l'auditeur comme s'il était à notre table et qu'on parlait cinéma. C'est vraiment une émission pour les passionnés de cinéma, mais je la veux pas. Elle est cinéphile, mais elle n'est pas élitiste.
C'est-à-dire pour les initiés.
Ça peut plaire à tout le monde en fait. Voilà.
Rester populaire au bon sens du terme.
Exactement.
Sarah.
Je vais prendre une question de Fabrice. Avez-vous hésité avant de dire oui à Europe 1?
Oh, bah non. Mais même, je pense que j'ai agité les bras depuis longtemps pour leur dire je suis là. Non, mais Europe 1, c'est un rêve. Quand j'ai fait la séance photo de rentrée avec le micro Europe 1, J'étais tellement excitée. C'est une radio que j'ai toujours écoutée.
Même en l'état actuel des choses, avec...
Bien sûr, mais
Déroute.
C'est une reconstruction, mais en même temps, c'est comme ça. C'est la télé, la radio, ce sont des éternels recommencements. Et voilà, il faut des reconstructions aussi de temps en temps pour pas que ça ronronne non plus. Donc non, bien sûr, moi, j'étais ravie, je suis très excitée. Je trouve que la marque est forte, c'est une belle marque, c'est une belle radio. J'ai été très bien accueillie et je suis très, très contente.
Alors, vous incarniez également lors de la dernière saison sur le cinéma sur Canal avec Chicha, qui est toujours pas revenu à l'antenne. Donc
non,
depuis,
ça arrive.
La rentrée. Il se passe quoi?
Mais on fait des aménagements. Donc, on a pris le temps de faire des aménagements. J'espère revenir. je vais squatter.
Vous en parlez largement.
Je pourrais revenir prochainement vous en parler parce que là, c'est encore un petit peu tôt. On est encore en réflexion avec la chaîne. Mais bon, d'un autre côté, ça va arriver vite. Je pense qu'on va arriver là avant Noël. Donc, on arrive avec une formule remaniée, on en avait besoin et puis je leur ai fait savoir que j'avais besoin aussi de j'étais pas totalement satisfaite de Chicha la saison dernière et donc on s'est posé autour de la table et voilà. Donc on vous prépare quelque chose normalement de très sympa.
Et ça veut dire qu'éventuellement il y aura davantage de synergie encore demain entre Canal et l'émission Chicha et ce que vous faites Clap sur Europe ou ça va rester de manière très distincte, deux émissions différentes?
Pour le moment ça reste deux émissions différentes. Après évidemment c'est moi qui les incarne donc peut-être qu'il y aura des ponts. En tout cas on va réfléchir intelligemment et puis forcément si j'ai un coup de cœur dans l'une je risque de l'avoir dans l'autre parce que je suis sincère dans ce que je raconte aux téléspectateurs ou aux auditeurs. Donc voilà, l'idée c'est de parler d'un cinéma qui me touche dans les deux, mais ça reste quand même deux programmes bien distincts. C'est Flap qui produit mon émission sur Canal+, à la radio c'est produit en interne, voilà.
Donc Canal, vraiment, avant Noël, a priori, on vous voit
oui.
Avant la bûche,
ouais, bien avant,
et le sapin.
Bien avant Noël, bien avant de sortir les hugs et le gros manteau fourré.
C'est dit, on en prend note. Sarah?
Oui, j'ai une question de Marianne. Quelle star ciné rêvez-vous d'interviewer? Peut-être que vous n'avez pas encore fait, vous en avez fait pas mal.
J'en ai fait pas mal, j'avoue, j'ai eu cette chance, j'en ai fait pas mal. Qui j'ai jamais fait en star ciné que je rêverais de faire? J'ai pas fait Cate Blanchett, que j'adore, qui fait partie des... Oui, j'ai pas fait Cate Blanchett, j'allais dire Meryl Streep, mais je l'ai faite à mes débuts sur un tapis rouge, vite fait, donc... Cate Blanchett, j'aimerais bien. Et même un Leonardo DiCaprio, que j'ai interviewé toujours assez furtivement. En fait, ce que j'aimerais, c'est pas tant quelle star, mais c'est d'avoir un long moment. Parce que les stars américaines, quand on a la chance de les avoir, c'est toujours très court. Oui. C'est toujours ce qu'on appelle les junkets à la chaîne. C'est ça qui me manque. Parce que moi, ce que j'aime ici, c'est que nos stars françaises et celles que j'aime, j'ai souvent eu des créneaux où on pouvait quand même bien parler et creuser. Quand on fait un Matt Damon 3 minutes, c'est sympa parce que ça suffit pour notre magnéto pour la télé, mais bon, c'est pas très excitant.
Ouais.
Voilà.
Les interviews plus en profondeur.
Oui, ça, ce serait.
On profite de votre venue pour vous poser une question. Que devient Laurent Veil, qui était absent du dernier festival et le rappel de Cannes, pour des raisons de santé, malheureusement.
Oui, c'est vrai. Il a eu un problème de santé et il se repose et j'espère qu'il va revenir très, très vite. En tout cas, moi, il me manque beaucoup. Laurent Veil, c'est une personne, c'est une des rencontres de ma vie télé. Et donc, on a eu peur, mais ça va aller, il va revenir.
On lui souhaite donc le meilleur. Oui. Sarah, une dernière question des internautes.
Allez, j'ai plein de questions. Pourquoi Europe 1 Beaucoup sur Europe 1.
Ah, voilà. C'est vrai,
c'est un peu dans l'actualité.
Je suis contente. Bon, après, n'oubliez pas Canal, on revient quand même.
Sur Instagram, parce que beaucoup notent que vous êtes très actifs sur Instagram, et ils se demandent pourquoi vous faites du placement de produits.
Ah bon?
C'est une question de Marie-France.
Non, je ne fais pas de placement de produits, mais c'est vrai qu'en fait, souvent, déjà, j'aime bien partager des choses. J'ai été maman ces dernières années, et avec le Covid, l'année dernière, par exemple, je n'ai pas travaillé, les cinémas étaient fermés, je suis restée avec mes bébés. Et donc, je postais beaucoup ma vie de maman, parce qu'en même temps...
Au quotidien,
donc. Voilà, on a envie quand même de faire partager des choses. Et donc, souvent, quand je pose des choses pratiques, on me demande. Donc, en fait, maintenant, parfois, j'aime bien... Mais ce n'est pas du placement de produits. Moi, je ne suis pas rémunérée pour ce que je fais. Après, de temps en temps, c'est vrai qu'on a des cadeaux. Moi, c'est vrai que quand je reçois un cadeau, quelqu'un m'envoie spontanément un cadeau. Je trouve ça normal de le remercier. Si j'ai aimé, si je l'utilise, je poste la marque. Mais ce n'est pas, Non, c'est pas des placements de produits. En tout cas, j'espère ne pas donner cette impression parce que voilà, mon métier, c'est d'être journaliste et c'est de présenter des émissions. Mais c'est vrai que je suis assez sincère dans mon utilisation des réseaux sociaux. Et j'aime bien faire partager mon quotidien sans trop non plus. Donc, il faut trouver la bonne limite. C'est pas toujours facile. Voilà la preuve. Il y a cette question. Donc, c'est que je la trouve pas toujours. Donc, j'en prends note. Mais c'est plus dans une démarche de partager mes bons plans. Parfois, je vais acheter un livre que je trouve génial pour mes enfants. Je vais le poster. J'ai pas été payée pour le poster.
Non, mais je vous rassure, elle me dit continuer.
Donc. Ah, bah merci. Bon, bah voilà. Donc, je continuerai.
J'avais employé beaucoup le mot sincère, Laurie. Ça tombe bien parce que c'est notre dernière rubrique qui s'appelle En toute franchise.
Oula.
Évidemment, vous devez répondre avec la plus grande sincérité possible.
Ah, je vais essayer.
Parce que souvent, c'est des vous l'avez fait jusqu'ici, donc...
Oui, mais elles sont toujours un peu compliquées, ces questions.
Non, non, on va dire que c'est un peu plus personnel.
Allez.
Le plus beau souvenir de votre carrière.
Ah, le plus beau souvenir de ma carrière, c'est quand j'ai interviewé Dustin Hoffman, qui est un homme extraordinaire, où je venais d'apprendre 2 jours avant que mon père avait donc un cancer du pancréas et qu'il n'allait pas s'en sortir. J'avais la tête ravagée, il a vu dans mes yeux qu'il se passait quelque chose. Et à la fin de l'interview, il m'a dit en anglais, il se passe quelque chose de terrible. Je lui ai dit oui, il m'a pris dans ses bras, il m'a fait un câlin de 10 minutes. Et en fait, je pense qu'il s'est dit, ça pourrait être ma fille. Il a compris. En fait, on s'est compris en se regardant et il s'est passé un truc hyper fort. Et ça m'a coupé. Moi qui étais déjà une épave, ça m'a complètement bouleversée. Et ça reste vraiment le plus beau moment de ma carrière.
Dustin.
Avec mon interview de Jean-Paul Belmondo aussi.
Ah.
Et quel est votre pire souvenir maintenant? Peut-être un petit problème sur le tapis rouge. On sait que des fois, c'est les directs.
Un pire souvenir.
Il y a eu des aléas.
J'ai pas eu vraiment de pire souvenir. J'ai été snobée sur le tapis rouge. J'étais très vexée d'ailleurs parce que Will Smith m'avait complètement snobée. Et puis 2 secondes après, il avait répondu à la question de Laurent Veil. Et c'est là où je me suis dit, bon, ok. Non, après, je dirais, j'ai pas de pire souvenir. J'ai eu des moments douloureux, mais qui m'ont toujours fait avancer. Quand j'ai animé mon premier prime sur France 2, qui n'a absolument pas marché, que j'ai été très critiquée derrière, ce sont des moments où, quand on n'est pas préparé, quand on est jeune, quand on démarre ce métier, que d'un coup, on vous ouvre les bras et on les referme aussitôt, c'est d'une violence telle que sur le moment c'est très douloureux, mais en même temps sans ces moments-là on se remet pas en question, on n'avance pas, donc bon, je dirais que ce serait peut-être mon pire moment, mais on est ressorti quelque chose de bon derrière.
Est-ce que vous avez une manie, un tic, voire un toc avant d'entrer sur un tournage, sur un plateau, dans un studio de radio?
Non, alors à la radio non. Un toc, une manie
ou un doudou?
Non, j'ai pas de doudou. À l'époque où je présentais une nouvelle star, je faisais de la sophrologie dans ma loge.
C'était quoi la pression du direct
Oui, et puis surtout, je revenais après des années un peu difficiles. Je savais que j'avais pas le droit à l'erreur, et donc je faisais un peu de sophrologie. Après, j'ai pas vraiment de tic. Je mets la musique. Oui, je mets la musique dans la loge. En fait, ça dépend vraiment de quelle émission je présente aussi.
Et ça a marché la sophrologie ou
Ah oui, vachement bien.
Ouais.
Bah, a priori, nouvelle star, c'est bien passé en tout cas pour moi, même si les audiences n'étaient pas terribles. Mais en fait, tout dépend du type d'émission que je vais présenter et de la pression que j'ai.
Il n'y a pas un rituel
j'ai
classique.
J'ai pas un rituel, non.
Est-ce que vous avez un mentor, Laurie, dans le métier connu que les téléspectateurs pourraient connaître?
J'ai souvent beaucoup demandé des conseils à Nikos. J'ai souvent beaucoup échangé avec Nikos. J'aime l'humain, évidemment, c'est la Rolls en télé, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de divertissement à une période. Et Nico, c'était vraiment ma référence, et surtout humainement, sur la façon dont il traverse ce métier, la classe qu'il a, la classe qu'il a envers les autres, la bienveillance. Donc oui, je crois que Nico, ça fait partie des personnes à qui je peux demander des conseils, en tout cas.
Si vous pouviez faire renaître une personne célèbre, vous choisiriez qui?
Ah, une personne célèbre.
Oh là là, venue du grand public.
Oui, oui. Oui, parce que sinon... Oh, il y en a tellement... Il y en a tellement des personnes célèbres à faire revivre. Si on veut être dans du pur divertissement, j'aimerais bien quand même que Johnny revienne.
Ça, c'est qui?
Ce serait quand même sympa. Après, j'avoue que Simone Veil, des personnes comme Simone Veil, j'aimerais aussi qu'on a envie qu'elle soit éternelle. Voilà. Les deux.
Si vous n'aviez pas été journaliste, présentatrice, quel métier auriez-vous exercé?
Avocate, j'ai une maîtrise de droit, j'étais vraiment partie pour être avocate. D'ailleurs, c'est drôle, l'autre jour, je parlais d'un documentaire sur une femme au Texas accusée à tort d'avoir tué son enfant qui attend dans les couloirs de la mort. Et je me disais, quand même, j'aurais bien voulu être avocate. Je rêvais d'être avocate pénaliste, de défendre comme ça des grandes causes. Et parfois, je me dis, tiens, quelle aurait été ma vie si j'avais continué et si j'avais passé ce concours du barreau. Mais la télé est arrivée, voilà.
L'élection présidentielle se tient dans quelques mois, ça ne vous a pas échappé, j'imagine.
Non,
admettons, vous êtes élu, vous êtes le nouveau chef d'État.
Ok.
Ce serait bien d'ailleurs sur une femme. Votre première mesure, qu'est-ce que vous feriez comme première mesure importante ?
C'est pas évident ça, hein, comme question. Il y a tellement de choses. Je sais pas, je crois que, mais enfin, après c'est juste parce que pareil, je suis jeune maman et que je commence à m'intéresser aux problématiques des... Alors, ce serait sans doute pas la première mesure à faire, hein, mais bon, je vous parle là avec mon affect, peut-être que je me pencherai sur l'éducation nationale, je regarderai un peu comment est-ce qu'on peut améliorer certaines choses dans les écoles, mais parce qu'aussi je pense que tout démarre de l'enfance et de l'éducation, donc... Je pense que voilà, pour offrir à nos enfants un monde meilleur, ça part aussi de là. Mais ce serait sans doute pas la mesure la plus urgente.
C'en est une.
Mais voilà.
Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère ou votre apparence physique ?
Ah, c'est pas pareil. Alors,
soit l'un, soit l'autre. Ou les deux, si c'est l'inspiration.
On commence par le caractère.
Allez, mon caractère, mon ultra-sensibilité, ça, c'est vraiment une force et une faiblesse. Ça, je pense que c'est très bien d'être empathique. Ça m'a, enfin, voilà, je suis contente aussi d'être comme ça. Mais c'est compliqué à vivre au quotidien, d'être ultra-sensible. Moi, je suis vraiment quelqu'un à fleur de peau. C'est pas de la fragilité, mais c'est vraiment de l'ultra-sensibilité.
Donc, je pense que ça, c'est éponge.
Éponge totalement. Quand je suis contrariée, au lieu de durer 10 minutes, ça va durer 4 heures. Enfin, quand j'ai un truc en tête, quand je vais croiser quelqu'un dans la rue, je sais pas pourquoi, je vais me dire le pauvre, il est malheureux, ça va me faire 8 heures. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment. C'est être trop éponge. Et alors physiquement, ceux qui me connaissent, ils vont rigoler, mais mes cheveux, c'est vraiment un problème.
Ah oui.
Aujourd'hui, je suis bien coiffée parce que j'avais un tournage avant. Donc je
ne
suis
pas,
constamment à me regarder dans le retour.
Mais ça va très bien.
Enfin, je suis bien coiffée, j'espère que vous le trouvez aussi. Les cheveux, c'est un problème. Ils sont ni raides, ni frisés, ni bon. Ils sont plats, ils sont chiants. Quoi.
Alors, on quitte les cheveux.
Oui.
Est-ce que vous avez une phobie ? Votre plus grande phobie, c'est laquelle ?
Alors, j'ai le vertige. J'ai vraiment le vertige. Je me force, hein, je prends l'avion et autres, mais j'ai un gros vertige.
Donc, vous n'allez pas dans les parcs d'attractions, déjà ?
Alors, je vais, mais je ne fais plus les trucs abominables.
Les montagnes russes,
on tombe. Non, la montagne russe, si jamais. Bon, à la limite, ça peut se négocier. Un Space Mountain dans le noir, pourquoi pas. Mais non, mais les trucs, là, les capsules qui tombent comme ça, je comprends pas.
L'ascenseur.
Ouais, non, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment c'est une incompréhension totale. Et puis, ben, pareil, maintenant que je suis maman, ma plus grande phobie, c'est que c'est de ne pas pouvoir être là pour mes enfants. Donc, c'est d'être là le plus longtemps possible pour les accompagner. Bon, c'est très banal, quoi. Mais...
Quel est l'objet le plus précieux sentimentalement que vous possédez ?
Je dirais. Alors pendant longtemps c'était. D'ailleurs encore maintenant. J'en ai plusieurs. J'ai la montre de mon père que mon frère m'a laissée quand mon père est décédé et donc voilà. Donc ça fait partie des objets les plus précieux. Tellement précieux que je la mets pas.
Oui.
Voilà. Et puis j'ai deux boîtes où j'ai mis toutes les choses de naissance de mes deux enfants et je serais très malheureuse de perdre ces boîtes.
On termine ce rendez-vous d'une certaine manière en musique, hein, pour savoir quelle est la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment, mais vraiment en boucle.
On veut savoir.
En boucle, alors il y a plusieurs...
Oula, il y a du
plusieurs.
Plaisir.
J'ai beaucoup parlé de mes enfants, mais ils ont un an et deux ans et demi, donc c'est-à-dire que quand je suis pas au travail, ça me prend pas mal de mon temps. Et donc on a beaucoup, beaucoup La Reine des Neiges à la maison.
Ah.
Beaucoup
oui.
Trop, beaucoup trop. Et on a Bande Organisée. Parce que mon mari aime bien tout
rap.
Ce qui est urbain. Donc quand même, on arrive à se sortir de La Reine des Neiges. C'est la négociation en disant « Attends, on va te mettre Bande Organisée ». Donc voilà, ce sont les deux chansons qui tournent en boucle chez nous.
C'est un peu un grand écart.
C'est un peu, ouais, c'est un peu le grand écart. Sinon, moi, j'adore la musique. Il y a tout le temps de la musique, toutes sortes de musiques, que ce soit les Stones, Gainsbourg, de la musique classique. J'essaye que ce soit très, très musical. Voilà.
Ben, la musique, il y en aura encore lundi prochain, donc on le rappelle, hein, le concert Leur Voix pour l'Espoir, oui, à l'Olympia.
Alors, il n'y aura pas la bande organisée, mais il y aura la kiffance, dans le genre s'appeler aux enfants.
Merci Laurie Chevalier d'être venue. Bientôt aussi,
avec
donc, Canal qui va revenir. Hein,
Canal, ça va, oui, Canal, ça va revenir, je pense, aux alentours du mois de novembre. Mais je ne vous ai rien dit, bien sûr.
Et sans oublier, si vous êtes le week-end, vous ne savez pas quoi écouter, ben, le samedi à 14h pour parler également au cinéma dans Clap. Et nous nous recevrons demain un ou une nouvelle invitée.
Une nouvelle invitée, actrice, chanteuse également. Elle joue dans une nouvelle fiction sur France 2, J'ai menti. Et elle s'appelle Camille Lou. Elle sera sur notre plateau demain.
Encore de la musique.
Très bien.
Merci Laurie.
Merci
Très
à
bonne
vous.
Journée.
À bientôt.